théâtre, exposition, cinéma, concert. Le Shaker vous présente l'agenda culturel blésois et des alentours,
un mardi sur deux à midi et demi,
sur Studio Z 91.10 et sur studioz.fr.
Amis de Blois et d'ailleurs, bienvenue dans le Shaker. Vous êtes au bon endroit, habituellement pour tout savoir de l'agenda blésois, mais aujourd'hui et depuis quelques mois, les événements culturels se font rares, voire inexistants. Donc aujourd'hui, pas d'agenda culturel, on vous propose un épisode spécial du Shaker. On avait déjà commencé avec Timothée et Émilie, et on continue avec un échange avec Léa et Tatiana, respectivement productrices, régisseuses techniques et techniciennes lumière.
Elles nous racontent leur parcours, leur vision de leur métier, ainsi que l'expérience d'être une femme dans des métiers plus généralement exercés par des hommes. On vous laisse écouter ça et on se retrouve juste après. Salut les filles.
Bonjour.
Salut.
C'est cool que vous soyez là aujourd'hui. Ça fait bien plaisir que vous ayez envie de participer.
Alors moi je m'appelle Léa, j'ai 28 ans. Ben, en ce moment je travaille plus trop dans le spectacle. Mais j'ai commencé quand j'avais 20 ans, j'ai fait une formation à Paris qui réunissait en fait tous les milieux culturels et qui était plutôt orientée production de spectacles, donc organisation autour d'événements culturels. Et bah du coup ça m'a fait me retrouver à Marseille où j'ai bossé pour des structures liées au théâtre de rue et au cirque. Ça pendant plusieurs années, j'ai aussi bossé dans des lieux liés à la performance artistique. Et ensuite, je suis revenue dans la région, j'ai fait une formation en régie et après, bah, il y a eu le Covid, quoi. Donc, je bosse pour certains festivals dans la région et maintenant, c'est un petit peu plus... on va dire que ça s'est un peu ralenti, quoi. Je travaille plutôt dans les vignes, mais je bosse sinon pour Délire d'été, les rendez-vous d'histoire. J'ai un peu bossé à Tours aussi, voilà.
Et donc, au départ, tu dis c'est la production.
Ouais.
Et la production, ça veut dire quoi exactement?
C'est l'organisation de spectacles. C'est en gros gérer toute la logistique autour d'un événement qui va se créer. Et gérer les bénévoles, gérer le matériel qui va venir pour le spectacle, gérer les artistes, comment ils vont venir, comment ils vont repartir, comment ils vont loger, comment ils vont manger.
Et c'est une grande coordination en fait d'un événement quoi. Et c'est un ça. Événement c'est quoi? Ça peut être un spectacle, un festival?
Moi c'est plutôt sur des festivals que okay. Je bosse. Du coup, c'est aussi le flux du public, la sécurité liée à ça, embaucher des techniciens, voilà.
Et t'as fait une deuxième formation, tu dis, en régie?
En régie technique, ouais.
Régie technique, alors quelle différence entre la première formation que t'avais passée?
Eh bah, ben, la production, ça ne concerne pas du tout la technique. Ça concerne juste la logistique, on va dire, des moyens humains. Et la régie technique, c'est plutôt le matériel technique, quoi. Voilà, mais ça, j'ai pas eu trop l'occasion de le mettre vraiment en place dans ma vie, moi, professionnelle. On va dire en partie, mais j'ai jamais eu de poste encore de régie pure et dure. Parce que la production, ça me va aussi très bien et que j'aime ça. Et que du coup, mon CV est en plus en accord avec ça. C'est plutôt ça que je fais, quoi.
Et pourquoi t'as eu cette envie de formation en régie, du coup?
Bah, pour avoir un parcours plus complet, savoir de quoi je parle, quel est le vocabulaire... pour pouvoir un peu bah ouais en parler et bosser du coup avec les techniciens que je croise dans mes différents postes.
Du coup, est-ce que ça te permet d'avoir une vision presque plus globale, que ce soit sur le côté, comme tu disais, d'organisation de moyens humains, et en plus technique, là sur un événement, avoir une vision quasi globale de ce qui se passe quoi?
Globale, sur vraiment la logistique, l'organisation pure, oui, après sur... tout ce qui est relations publiques, communication, moi j'ai jamais été là-dessus et ça fait partie totalement du montage d'un événement. Après, oui, j'ai une vision un peu plus élargie et du coup, en effet, je sais plus qu'est-ce que c'est qu'un prolon, quel micro pour quel type de voix ou quel type de concert, tout l'aspect sécurité et toute la législation liée à ça en fait. Que j'ai beaucoup appris avec cette formation du coup qui était à Issoudun, qui s'appelle les formations d'Issoudun et qui est assez connue dans la région.
Oui, du coup tu peux mieux anticiper, enfin en tout cas du regard de la production, si par exemple tu sais lire une fiche technique,
ouais.
Ça te permet aussi de mieux anticiper l'avenue ou des artistes ou du public ou d'imaginer un peu l'ampleur de l'événement en voyant une fiche technique et j'imagine en termes d'anticipation je pense que
ouais,
c'est souvent un... une partie qui manque en production. Au moins de comprendre une fiche technique et d'évaluer l'ampleur que ça peut être en termes de location, en termes d'embauche intermittente, tu parlais de ça tout à l'heure. Et ça rentre dans le budget, et mine de rien, la production, c'est aussi de la gestion de budget. Et je trouve que c'est essentiel.
Tout à fait.
Et toi qui es en train de parler, qui es-tu? Et est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est qu'une fiche technique?
Je m'appelle Tatiana, j'ai 30 ans, et je suis régisseuse lumière dans le spectacle vivant. Et une fiche technique, c'est ce qui comprend... tous les éléments techniques d'un spectacle. Donc ça va de... En général, il y a une sorte de préambule sur la durée du spectacle, combien de personnes sont en tournée, etc. Et puis ensuite, il y a des blocs spécifiques pour la lumière, le plateau, le son et les costumes. Et chaque partie comprend le détail. Donc pour la lumière, ça va être le nombre de projecteurs, ça va être pour le son, quel type d'enceinte on veut ou quel type de micro. Pour le plateau, s'il y a un décor, les dimensions nécessaires minimales pour accueillir un spectacle. Et puis pour les costumes, ça va être par exemple s'il faut un service d'habillage avec du personnel pour laver des costumes, pour de l'entretien, pour de la reprise de couture, des choses comme ça. Et donc voilà, cette fiche technique, c'est vraiment le mode d'emploi du spectacle qui va être accueilli ou qui va être joué ou quoi. Et voilà, et ça permet d'anticiper et puis de préparer l'avenue.
Et à côté de ça, tu as la feuille de route, du coup, qui sera plus le planning depuis l'arrivée des artistes jusqu'à leur départ. Qu'est-ce qui se passe pour eux, genre leur planning? Ils arrivent, quelqu'un qui va les chercher, le numéro de cette personne à la gare ou à l'aéroport ou je ne sais où. Où est-ce qu'ils vont loger, l'adresse de l'hôtel, à quelle heure ils mangent, à quelle heure ils répètent, à quelle heure ils jouent.
Toi, ton parcours à toi, Tatiana, comment t'es arrivée à faire de la technique lumière?
Initialement, j'ai pas fait d'études dans ce milieu-là. J'avais fait une licence d'histoire et après j'ai fait un master en production artistique à Lille, qui mélangeait de la production et de l'action culturelle, donc beaucoup de sociaux de la culture, pour juste amener le public au spectacle. Et dans ce cadre-là, j'avais fait un stage en prison, où c'était de l'action culturelle en milieu pénitentiaire, qui étaient vraiment des missions de réinsertion par la culture, mais mine de rien, il y avait un gros enjeu administratif, mais technique, parce que du coup, c'était accueillir des spectacles en détention. Bref, et justement, j'étais confrontée à ça, c'était de travailler avec des théâtres et qu'eux me fassent des demandes, mais auxquelles je n'avais jamais pensé. Enfin, par exemple, quelle alimentation électrique il y avait sur place, qu'est-ce qu'on pouvait brancher, qu'est-ce qu'on pouvait pas brancher, la taille des portes ou des entrées potentiellement pour le décor ou des choses comme ça. Et du coup, ça m'a fait un peu... Déjà, ça me plaisait beaucoup de m'intéresser à ça et aussi me rendre compte que je connaissais pas du tout, mais que de fil en aiguille, c'est ça qui m'intéressait bien. Et puis après, j'ai terminé mon master sur un stage encore au Canada, où là, j'étais sur de la coordination sur un festival. Et il se trouve que j'ai fait de la régie lumière avec l'éclairagiste qui bossait sur ce festival. Et qu'une nouvelle fois, je me suis dit que ça me plaisait pas mal.
C'était pas mal.
Voilà. Et donc, je faisais quelques régies avec elle. Et ça me plaisait beaucoup. Enfin, en tout cas, tout l'aspect production qui était ma formation... Je le retrouvais aussi dans la technique, parce que c'est de l'organisation, c'est des plannings, mais d'un côté technique qui m'attirait beaucoup. Et une fois que je suis rentrée en France, j'ai rebossé en prison, et après j'ai postulé un peu au culot dans une salle dans le nord de la France, à Armentières, qui s'appelle le Vivat, qui est une scène conventionnée pour l'art et la création, donc accueillait beaucoup de jeunes compagnies. Il se passait beaucoup de choses et ils cherchaient un ou une assistante technique polyvalente. Et en bas, dans les petites lignes, il y avait écrit « débutant accepté ». Et là, je me suis dit « c'est le moment de faire la lettre de motivation de ta vie ». Et en fait, j'ai été prise. Donc, je me suis formée vraiment sur le terrain avec eux pendant un peu plus d'un an et demi. Et ensuite, j'ai quand même eu envie de me former. Et donc je suis partie à Paris, où là j'ai fait un contrat de professionnalisation avec le Théâtre National de la Colline et au CFPTS, qui est le Centre de Formation pour les Techniques du Spectacle, en régie lumière. Et là, ce qui est super, c'est qu'ils m'ont fait un parcours de formation à la carte, puisque j'avais déjà une formation de terrain, mais que j'avais pas des bases théoriques, par exemple en électricité... Pour tout ce qui est même l'aspect sécurité, des choses comme ça. Donc je connaissais le métier, mais j'étais passée à côté des bases théoriques. Et donc j'ai passé cette formation où j'étais à la fois sur le terrain, parce que j'étais à la colline, et à la fois à l'école où là j'ai pu justement un peu asseoir des connaissances que j'avais, et puis surtout en apprendre
des nouvelles.
Voilà, beaucoup. Et donc aujourd'hui, je fais de la régie lumière.
Okay. Tu parlais de salles ou de scènes conventionnées, ça veut dire quoi exactement ?
Ça c'est des labels qui sont donnés à différentes salles et qui correspondent à des missions qui doivent être portées par ces lieux-là et à des subventions qui sont données par l'État ou par les collectivités. Donc il y a différents niveaux. Là on parlait de scènes conventionnées, donc elles ont des missions spécifiques. Là c'était art et création. Donc ça veut dire qu'ils donnent un vrai soutien à l'art et à la création. Mais par exemple, là, les financements principaux, c'était la municipalité. À l'inverse, le Théâtre National, il y en a 6 en France. Ouais. Eux, c'est vraiment complètement rattaché au ministère de la Culture. C'est 100% État.
Ouais. Okay.
Et pas tout ce qui est national, c'est l'État.
Après, il y a des lieux qui ont le nom Théâtre National, mais qui ne sont pas un Théâtre National vraiment. Genre Théâtre National de Bretagne. Je crois que c'est un CDN, Centre Dramatique National. Donc là, ça veut dire que c'est dirigé par un ou une metteuse en scène. Donc c'est un artiste qui est à la tête. Et après, il y a les centres chorégraphiques nationaux, il y a toutes ces
scènes nationales.
Les scènes nationales, qui sont les réseaux d'anciennes maisons de la culture. Donc voilà, ça c'est des réseaux d'appellations qui correspondent à des missions et à des financements, quoi.
Dans les arts de la rue, il y a les CNAREP, les centres nationaux pour les arts de la rue et l'espace public. Pareil, ça c'est plutôt étatique.
Avant qu'on enchaîne justement sur, pour que tu nous expliques ce que c'est exactement la régie lumière, c'est là qu'on va faire une petite pause musicale. No Doubt, Just a Girl, c'est parti.
My eyes, I'm exposed, and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. 'Cause I'm just a girl, a little lonely. We'll
assez assurer le montage et l'exploitation de tout ce qui est lumière, donc d'un plan de feu sur un spectacle ou sur une conférence ou peu importe, mais sur un événement. Et donc, ça va de, en gros, gérer les équipes de techniciens et techniciennes qui vont faire le montage, le câblage, des projecteurs. Et ensuite, côté du coup plus console, parce qu'on travaille sur des consoles qui sont comme des gros ordinateurs, la restitution en fait du spectacle qui a été préparé. Donc en amont, après il y a un peu deux places différentes en régie lumière. Si on est à travailler avec une compagnie par exemple, là ça va être en amont préparer l'adaptation du plan de feu, parce que d'un théâtre à un autre ce sera pas exactement pareil, parce que c'est pas les mêmes lieux. Donc gérer l'adaptation d'un plan de feu sur des logiciels de lumière pour donc refaire des plans, appeler du coup les personnes, les référents techniques dans les salles pour discuter un peu du matériel, tout ça, et puis des plannings. Et après, une fois sur place, d'assurer les réglages avec le personnel, donc réglage du plan de feu, et après restitution en temps de jeu. Et par contre, quand on est en situation d'accueil, on accueille quelqu'un qui vient avec son spectacle. Et donc là, c'est un peu vérifier que tout se passe bien, quoi. On connaît bien sa boîte à outils un peu et on connaît sa maison et on est là pour que tout se passe bien pour la personne qui arrive en fait. Donc là, évidemment, comme on ne connaît pas le spectacle, c'est pas nous qui allons être derrière la console à restituer, mais on est là pour que tout se passe bien.
Et toi, tu nous racontais un peu tout à l'heure comment tu as découvert un peu ce métier-là et ce qui t'a donné envie de pouvoir le faire. Toi, Léa, tu dis que ta première formation, tu avais 20 ans. Donc c'est vraiment après le lycée.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a orientée vers ce métier de productrice au départ ?
En fait, quand j'étais au lycée, j'ai fait un bac histoire de l'art. Donc dedans, il y avait de l'architecture, du théâtre, de la musique, de l'art plastique. Et donc on allait voir pas mal de spectacles à la Halograin, donc avec la classe. Et je pense que ça, déjà, ça m'a pas mal influencée. Puis mes parents étaient des gens qui écoutaient pas mal de musique, qui dessinaient beaucoup. Du coup, ça aussi, ça a compté. Et en fait, après, moi, je voulais d'abord être... je crois que je voulais être journaliste ou quelque chose comme ça. Donc je suis allée à la fac en sortant du bac, sauf que l'apprentissage très anonyme à la fac, le système fac me convenait pas et moi j'avais envie de bosser assez rapidement, donc je me voyais très mal rester 5 ans jusqu'au master dans une fac. Donc j'ai arrêté la fac, j'ai un peu loupé toutes les inscriptions pour l'année d'après dans toutes les écoles. Et j'ai quand même trouvé une formation pro, donc c'était à Paris, ça s'appelait Lycécom, je sais pas si ça existe encore. Une formation d'un an, qui vraiment, où il y avait des intervenants qui nous apprenaient leur métier. C'était lié à n'importe quel secteur, l'opéra, la musique classique, les musées. Et en fait, moi j'ai juste eu à la fin à choisir un peu mon stage. Et les arts de la rue, c'est vraiment quelque chose qui m'attirait beaucoup parce que j'aime bien l'éthique dans les arts de la rue et dans le cirque. J'aime bien que le spectacle soit gratuit, qu'il soit visible à tout le monde et pas réservé à, entre guillemets, réservé à des gens qui sont déjà éduqués à ça et qui vont faire l'effort d'aller dans les salles de spectacle. Là, c'est vraiment tout le monde peut voir et n'importe quel passant peut aller dans la rue, voir un spectacle et se dire que finalement, c'est pas mal en fait. Et du coup, ensuite, aller dans une salle de spectacle peut-être. Et c'est ça vraiment qui me plaît, c'est ce côté populaire, toute l'ambiance, tout l'imaginaire qu'il y a derrière ça que j'adore, quoi. Et aujourd'hui, je bosse plus trop dans les arts de la rue parce que dans la région, il y a peu de structures liées à ça. Et même s'il y en a, je pense que les places, elles sont un peu chères. Et puis en plus, en ce moment, c'est encore plus compliqué. Donc ce dans quoi je travaille me plaît quand même, hein, mais du coup, il faudrait que j'aille chercher encore plus pour trouver vraiment ça. Parce que c'est vraiment ce type d'art-là... me correspond tout à fait, quoi.
Dans vos missions respectives, ce serait quoi les qualités qui sont un peu indispensables au métier que vous exercez ?
La rigueur, moi, je trouve.
Ouais.
que c'est assez essentiel parce que là on est, enfin par exemple pour la lumière, il faut être un minimum rigoureux par exemple sur des sur les réglages, enfin faut que ce soit propre et bien fait parce que derrière il y a quand même un enjeu de rendu qui doit être là. Et puis de base, je trouve que, enfin moi, c'est un peu ce que je me mets, ce que je me mets comme objectif, quoi, d'être le plus rigoureuse possible. Après, il y a un aspect humain qui est pour moi indispensable parce que, en tout cas, en position de régisseur ou régisseuse, on encadre aussi des équipes et du coup, juste savoir travailler ensemble pour qu'un spectacle se passe. Il faut que ça marche et donc bien encadrer les gens pour aussi que respecter les délais parce qu'en général on arrive la veille et le lendemain ça joue donc rigueur c'est aussi parce que il y a un planning à tenir et que si on passe 6 heures à régler au lieu de 3 clairement on n'est plus dans les clous donc donc voilà savoir gérer les équipes et puis l'aspect humain aussi parce qu'on travaille avec des créateurs ou des créatrices et que c'est leur petit bijou leur petit projet et donc la moindre des choses c'est de faire que ça se passe bien quoi.
Moi je dirais je suis d'accord avec Tatiana sur l'aspect humain, il faut vraiment aimer bosser avec du monde. Pour moi pour la prod c'est beaucoup de téléphone par exemple, faut aussi aimer faire du téléphone, parler, rencontrer des gens, avoir des rendez-vous tout le temps, enfin c'est pas un travail solitaire quoi. Et je dirais aussi qu'il faut pour ma part être organisée, ça c'est sûr, vu que c'est de l'organisation.
Vaut mieux peut-être ouais.
Et de l'endurance aussi parce que, enfin pour moi en tout cas, c'est pas tout de suite l'événement. Il va y avoir 2 mois de préparation pour un événement et ensuite il va y avoir par exemple, selon l'événement, 10 jours de festival où là ça enchaîne. C'est-à-dire que pendant 10 jours c'est non-stop, c'est des amplitudes horaires assez grandes où si c'est dans le spectacle, il y a aussi le côté festif. Donc du coup c'est vraiment 10 jours de festival de... travail, où on se lève tôt, on se couche tard, et ça, faut de l'endurance quoi, pour le faire. Et voilà, après, comme toute qualité, il faut aussi pas se laisser submerger par le stress. Parce qu'en bossant avec plein de monde, quand il y a beaucoup de choses à faire, dans un temps imparti court, si tu te laisses submerger par le stress, en fait, c'est pas possible quoi. Et si tu commences à mal parler à ton équipe parce que toi, t'es super stressé, ça fout un peu la merde, quoi. Donc, du coup...
Comment faites-vous pour gérer votre stress, alors ?
Moi, je sais que les cas de stress, en tout cas, ça peut arriver sur des pannes techniques, par exemple. Ouais. Et ça, c'est... des pannes... Enfin, il y en a souvent, et en général, il y a un peu de la méthodologie de dépannage, donc tu prends les choses dans le bon ordre, et en général, ça fonctionne. Après, moi, ça m'est arrivé d'être sur des plans où là, on est sur des pannes techniques de l'espace, et là, clairement, c'est un peu la panique, et c'est vrai que c'est compliqué de se dire, on se calme, on essaye de reprendre les choses dans l'ordre, et puis en fait, savoir aussi, il y a des moments, lâcher prise et dire, mais là, en fait, c'est plus de mon ressort, et notamment pour pas que les relations se dégradent, quoi. Enfin, en tout cas, savoir prendre du recul et un peu se dire, on est tous ensemble dans le même bateau, même si là, on va pas trop dans le bon sens, juste...
moi, je dirais exactement la même chose. Prendre du recul.
Et pour... je repensais à ça pendant qu'on parlait, mais en tout cas, pour les métiers techniques, je trouve qu'une autre qualité, c'est... de savoir se remettre en cause et aussi de... Enfin, je pense à ça par rapport au fait de se former. Parce que forcément, les métiers techniques, les technologies, elles évoluent beaucoup, vite et tout le temps. Et donc, être capable de dire, ça, en fait, je connais pas assez ou je sais pas faire. Et donc, se former et être humble vis-à-vis de ça, quoi. De pas se dire, moi, j'ai fait une formation dans un super centre de formation, je sais tout faire. Et en fait, juste déjà de savoir dire, ça, je sais pas. Et de prendre le temps de se former, si on peut le faire, mais de jamais perdre de vue que la formation, c'est hyper important. Vite être complètement largué si on fait pas une veille un peu de ce qui se fait quoi et qu'on se forme au fur et à mesure
et puis tout bouge par exemple la législation par rapport à la sécurité dans les lieux de spectacle c'est en constant mouvement en fait donc ça c'est pareil faut se tenir au courant tous les ans de qu'est-ce qui a bougé ou pas quoi.
Vous parliez de relationnel et de bonne entente et de que tout le monde doit peut-être mettre un peu d'eau dans son vin, histoire de faire des choses ensemble. Bon, la question, vous la voyez bien arriver, mais vous êtes des meufs dans des milieux... Alors après, en technique, j'imagine, toi, Tatiana, c'est peut-être un milieu qui est peut-être considéré, j'en sais rien, tu me dis si je me trompe, mais qui est considéré plus, peut-être plus masculin. Après toi, Léa, en production ou en régie, maintenant, je sais pas trop. J'ai, dans mon esprit à moi de moldu du spectacle, je sais pas, peut-être pas. Bah, dans ma tête, ça me paraît peut-être un peu moins...
Oui, c'est moins masculin au départ. C'est plus justement les équipes de mecs, elles sont plus dans les équipes techniques. Clairement.
Ouais. Et est-ce que le fait d'être une meuf, ça vous a déjà empêché d'accéder à un poste, à une démission, ou est-ce que ça vous a déjà freiné dans des équipes? Est-ce que s'il y a eu quelque chose de vraiment total obvious ou finalement pas tant que ça, et c'est des questions de caractère ou peut-être des clichés qu'on voit ou qu'on se fait?
Bah, en tout cas dans le spectacle, et je travaille beaucoup dans le théâtre, les métiers techniques, clairement, ça reste toujours encore aujourd'hui un métier très masculin, mais il y a beaucoup beaucoup de femmes qui y sont, et de plus en plus, et on en voit vraiment beaucoup sur les plateaux, donc ça c'est cool parce qu'on se sent moins toute seule, ça, ou moins un peu genre ah tiens, qu'est-ce qu'elle fait là. Donc je dirais que c'est vraiment des métiers qui se féminisent beaucoup aujourd'hui. Après, moi, je me suis jamais sentie vraiment freinée dans des évolutions, enfin, ou quoi que ce soit, du fait que je sois une femme. Je dirais plus qu'il y a une forme de solidarité masculine assez... mais enfin, c'est quelque chose qu'il y a partout, en fait. Et ça, c'est, je pense que c'est dans tous les secteurs professionnels.
Oui, c'est peut-être pas spécifique au spectacle.
Mais qu'en tout cas, là, c'est quelque chose que je ressens assez fort, c'est-à-dire cette solidarité masculine qui fait qu'on se refile les plans. Ah ouais, ok, toi t'es mon pote, tu bosses bien, non, je te refile des plans. Et cette confiance-là, parce que souvent ça se joue sur une rencontre et puis là d'un coup on te rappelle. Et, et cette confiance-là, ça m'est moins arrivé qu'on me la donne en tout cas. Enfin, qu'on me rappelle, enfin après une rencontre ou quoi.
Ouais. Lié au fait que tu sois une femme du coup.
Je sais pas, mais en tout cas c'est qu'il y a ce truc de... Ouais, qui... Mais en même temps par exemple, je remarque que les fois où ça s'est fait, on le faisait entre meufs. Enfin, les fois où on m'a rappelé pour des reprises de régie, souvent c'était des filles en fait qui m'appelaient genre ah ouais bah voilà je fais ça, et donc ce truc là on le reproduit aussi, mais en tout cas ça va moins de soi. Les fois où on a pu me faire sentir, enfin où j'ai pu ressentir le fait que bon, je suis une meuf dans un milieu assez masculin et tout, c'était toujours très subtil, mais ça reste présent. Et ça va être, je sais pas, bah, par exemple sur des pannes techniques, ça c'est quelque chose qui m'arrive souvent, j'ai la solution, je dis bah, le problème c'est ça. Et en fait dans l'équipe personne ne l'entend jusqu'à ce qu'il y ait un de mes collègues par exemple qui dise ah oui, qui redise exactement la même chose, et là sa parole est entendue. Donc c'est plus sur des petites choses comme ça qui sont assez subtiles, et c'est pas ah on écoute pas Tatiana, enfin, mais c'est un peu de... C'est vraiment des petites subtilités comme ça quoi. Ou genre, je sais pas, un projecteur que je vais pas réussir à régler, ça va pas être parce que c'est compliqué, ça va être genre, ah bah t'as pas assez de force, t'arrives pas. Puis je vais dire, bah non, en fait c'est un angle impossible par exemple. Et donc ça m'est arrivé qu'on me fasse descendre de la génie, et qu'un mec monte à ma place, et que bah, il en arrive à la même conclusion que moi. C'est un peu des choses comme ça, où des fois c'est... Ça vient un peu biaiser des relations de travail, où en fait si c'était un mec qui dès le départ avait dit, bah non, en fait ça c'est pas possible...
Il n'y aurait pas eu de doute, quoi.
Voilà, c'est un peu... C'est plus ça. Ce que je peux vivre, en tout cas.
Moi, ce serait plutôt sur le côté physique, justement. Porter des charges un peu lourdes, seules, où tu te sens... Enfin, moi, en tout cas, je me sens parfois tout à fait capable de porter une caisse de câbles un peu lourde pour la mettre dans un camion, ou de ranger les fly dans un camion de façon organisée. Enfin, voilà, c'est faisable. Mais du coup, ou quand même, de temps en temps, c'est pas constant non plus, mais de temps en temps, il y aura un truc du genre, ah bah, attends, fais pas ça, enfin, tu vas te péter le dos et tout, sauf que moi, je sais si je me pète le dos ou pas, et en l'occurrence, ça me pète pas le dos. Et du coup, moi, c'est plutôt sur ce genre de truc-là, où je connais ma force physique, si je suis pas capable de le faire, je le fais pas, mais si je pense que je suis capable de le faire, et même si je me trompe à la rigueur, j'essaye. Et puis, du coup, voilà. Mais c'est plutôt sur ce genre genre de choses-là. Après, j'ai pas remarqué forcément d'autres choses. C'est surtout ça.
Oui, non, mais oui, c'est le fait de porter des déchargements de décors, par exemple. Au début, je m'obstinais un peu à justement dire bah non, mais je vais décharger. Enfin, on est, je sais pas, 10 personnes prévues pour un déchargement de camion. Et un théâtre où je bossais, les hommes étaient systématiquement à dire non, mais attends, je vais porter. Et au début, vraiment, je m'obstinais pour dire mais en fait, je suis embauchée comme toi pour faire ce métier-là. Et en fait, le fait que je sois là, c'est pas toi qui vas me dire non, le fais pas. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je vais pas me battre pour faire un truc qui est en soi pas très intéressant. S'ils veulent, eux, se casser le dos et se faire chier, entre guillemets, hein, à faire ce déchargement qu'en vrai, personne n'a envie de faire, bah allez-y. Et donc, il y a vraiment des fois où ils me disaient, non, mais porte pas ça, ça va être, non, mais ça va être trop dur pour toi, non, mais t'inquiète, on le fait un peu... ouais, on fait les gros bras, on est des bonhommes et tout. Et je disais, bon, bah, moi, je vais me faire un café. Puis c'était là, ouais, fais ça. Bon, bah, très bien.
Ah ouais, moi, j'arrive pas à faire ça.
Ouais. Bah, en fait, il y a un moment donné où moi, je suis vraiment dans un truc de lâcher prise. Genre, vraiment, je vais pas me battre pour faire un truc en soi. Si, par exemple, ça mettait en cause le fait de faire le métier que j'aime et que là, on me dise, ah non, tiens pas une régie parce que tu sauras pas le faire. Bon, là, clairement, je pense que je sortirai un peu plus les crocs, quoi. Clairement, mais par contre, là, si faut que je me bagarre pour porter des caisses et porter des bouts de décor qui font 3 mètres de haut, bah non, en fait, enfin, limite, je suis gagnante quoi. Donc, j'ai aucun scrupule de retourner cette espèce de truc où ils partent du principe que je peux pas le faire, bah ok, vas-y, je le fais pas, moi je vais me faire un café, me prendre un croissant et puis j'ai 10 minutes de pause.
Bah, c'est bien d'être arrivée à faire ça au bout d'un moment, moi je sais que je préfère. Je préfère le faire et c'est hors de question que je le fasse pas, tu vois. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Bon, d'ailleurs, s'ils m'entendent, c'est pas contre eux ni rien. Je les adore, mais du coup, ça me fait penser pendant un festival l'année dernière. Je portais des choses. Enfin, j'étais toujours là pour aider au démontage et à recharger le camion, etc. Et en fait, à un moment donné, j'ai porté une caisse un peu lourde et. À partir de ce moment-là, on m'a appelé Léo. Et j'ai dit, mais vous vous rendez compte,
pas être Léa et porter des grosses.
Ouais, voilà, c'était ça. Et enfin, vraiment, ça, je leur en veux pas du tout. Hein. Mais c'est juste vraiment une preuve de à quel point c'est dans les esprits que si
à
tu
quel point c'est hyper ancré, gros, ouais.
Bah, et c'est que t'es un mec, tu vois.
Ouais, grave.
Et c'est ce genre de petite, quand je disais subtilité, je pense pas que c'est le bon mot, mais plus de, ouais, un peu de machisme larvé, quoi, qui est en général, enfin,
ouais.
C'est jamais méchant, tu vois, et c'est jamais, mais c'est là.
C'est
et
jamais
en fait,
méchant,
c'est lourd à porter.
C'est hyper intégré, c'est hyper inconscient, c'est parfois peut-être hyper paternaliste sur le truc de non, le fais pas, je vais le faire.
Mais
c'est...
complètement, mais genre.
Ou attends, je te montre comment. Tu dois faire ça, mais en fait j'ai rien demandé. Genre je sais comment je dois faire, mais attends, je te montre quand même, tu vois.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a des histoires de génération là-dessus, où vous sentez aucune différence, que ce soit des hommes de votre âge ou des hommes plus âgés?
Peut-être qu'à force il y aura des histoires de génération. Pour l'instant on est qu'aux prémices de, et c'est plus des histoires de génération. Je pense que c'est des histoires de secteurs de métier qui ont été exclusivement masculins à un moment donné. Et voilà, simplement quoi.
Bah, pour le coup, en plus, en général, les fois où ça a pu mal se passer avec des collègues, c'était pas forcément des vieux. C'était plutôt des jeunes, mais qui sont habitués à bosser entre mecs et qui... Enfin, c'est plus ça, en fait. C'est vraiment souvent dans des équipes qui ont peu l'habitude de travailler avec des femmes, qui vont avoir des comportements qui sont un peu déplacés, quoi. Et ce que tu disais sur le fait de partir du principe que si t'es... vu que t'es une nana, t'arriverais pas à le faire, ou que ça peut être source d'erreur, enfin, là, dans ce que je parlais tout à l'heure, des réglages ou des choses comme ça, c'est assez récurrent. Mais des remarques paternalistes, enfin... genre là, un exemple, mais qui dure 2 secondes, c'est... On avait un souci pour enlever une lyre d'un projecteur, donc les lyres, c'est ce qui permet de tenir le projecteur, d'y mettre un crochet et de l'accrocher à une porteuse pour qu'il soit accroché en l'air. Et donc on enlève cette lyre et le pas de vis était grippé, enfin ça fonctionnait pas, bref, j'étais en train d'essayer de dévisser pendant super longtemps, et il y a quand même un collègue qui est venu qui avait mon âge, et qui m'a dit de manière mais hyper sûre de lui, et pas du tout, c'était vraiment condescendant, mais je pense qu'il s'en rendait même pas compte, il m'a dit mais Tatiana, est-ce que tu sais la différence entre visser et dévisser?
Hey. Oh,
et wow. En fait, ça, il était 9h15 le matin. Et en fait, là, à ces moments-là, évidemment que... Et j'étais là, waouh, en fait, quand je lui dis ça fonctionne pas et que lui, sa réponse, c'est est-ce que tu sais ce que c'est la différence entre visser et dévisser? Je pense pas que cette remarque-là, il l'aurait fait à mon autre collègue qui était à côté, qui lui était un homme et qui est passé après moi et a lui aussi galéré. Et là, d'un coup, ils se sont mis tous les deux d'accord pour dire qu'il y avait un problème avec le pas de vis. Et ça... Ça m'a vraiment bluffé. Enfin, c'est ces trucs-là où tu te dis waouh, ouais. On part vraiment du principe que tu connais pas, quoi, et tu sais pas faire. Et...
Est-ce que tu fais attention à tes tenues vestimentaires quand tu bosses?
Ah, bah oui. Enfin, ouais. Oui. Bah, déjà ouais. Parce qu'il faut que je sois à l'aise.
Oui, mais je veux dire, enfin, sur le côté justement homme-femme.
Bah, après, c'est plus que par exemple en été où tu te dis t'aimerais trop être en débardeur ou. J'avoue que je suis toujours. Enfin, voilà, je vais pas mettre des tenues.
Ça t'est déjà arrivé d'avoir des remarques?
Ça m'est arrivé une fois, mais c'était parce que j'avais mis une chemise. Et du coup, quand je suis arrivée, ils m'ont dit « Ah, bah dis donc, t'as mis ta tenue de première. » Parce que quand il y a les soirs de première de spectacle, souvent, on s'habille un peu. Mmh. Et en fait, moi, j'étais pas particulièrement bien habillée. C'est juste que j'avais mis une chemise qui était un peu légère et c'est parce qu'il faisait chaud. Et en fait, quand on me dit ça, c'est genre « Ah oui, bon bah on remarque que je suis pas habillée comme un sac, quoi. » Enfin, bon, mais bon, sinon...
Oui, mais tu vas pas te mettre en brassière à monter des projos sur la scène
parce qu'il
fait super chaud, c'est
non.
Ça que je veux dire.
Ah non, mais en même temps...
Mais tu pourrais le faire, sauf que...
Je pense que moi, vis-à-vis de moi, je le ferais pas déjà, n'importe quel milieu confondu, enfin c'est pas... Enfin,
ouais, mais voilà. Ton collègue, il se met torse-poil pour...
Ça m'est pas arrivé. Mais par contre, par exemple, de se mettre en short, genre l'été de la canicule à Paris, on faisait de la maintenance, il y avait des collègues qui étaient en short, moi je me voyais pas du tout venir en short par exemple.
Toi Léa, tu fais attention à ta tenue?
J'aimerais bien ne pas avoir à y faire attention. Donc j'essaie que les choses aillent dans ce sens et en même temps, je vais pas me foutre en brassière même si mon collègue il se met torse-poil pour faire des trucs. Après, du coup je fais un peu attention quand même. Mais j'aimerais ne pas avoir à le faire. Mais en tout cas, je pense, dans les secteurs masculins au départ, qui le sont beaucoup comme le spectacle, ou même moi, là en ce moment, qui bosse dans l'agriculture, j'ai le sentiment que quand même, quand tu bosses dans ces secteurs-là, de toute manière, quand t'es une fille, tu dois fournir deux fois plus d'efforts.
Complètement.
Ouvrir deux fois plus ta gueule que quelqu'un qui est un homme, en fait. Pour te faire entendre, pour montrer que t'existes, pour que les gens reconnaissent que tu bosses bien. Voilà, moi c'est mon impression que je pense légitime.
Ouais, le côté pas le droit à l'erreur. Ouais. Enfin, là, en plus, on parle quand même à un moment où je sors d'une période de contrat dans une équipe où ça a été. C'est la première fois en fait où vraiment. Enfin, du coup, c'est quand même drôle qu'on parle de tout ça à ce moment-là parce que ça a été hyper compliqué avec les équipes sur place. Et c'était beaucoup lié au fait que je sois une femme parce qu'ils bossent que entre mecs. Et c'est impressionnant. Et tout secteur confondu, hein, c'était pas que la lumière. Mais... Et ça, le côté t'as pas le droit à l'erreur. Et on en attend doublement de toi, c'est que, du coup, pour un peu leur prouver que t'es capable d'être là, enfin, en fait, de base, t'as même pas à leur prouver, mais un peu pour leur... Parce que eux, en fait, ce serait leur donner le meilleur truc possible. C'est-à-dire que si tu fais une erreur, c'est genre, ah bah oui, bah forcément. Forcément, elle a fait une erreur, bah oui, parce que c'est pas, tu vois. Et en fait, du coup, ça demande en effet double d'effort et de stress, quoi. Enfin, moi, ça m'a fait du stress de me dire, mais là, en fait, en plus, si jamais il y a un pépin et que c'est de ma faute et que machin, ça va encore plus me retomber sur la gueule et puis ça va leur donner raison un peu dans leur mentalité, quoi.
Ouais.
Et là, c'était ça tout le temps. Donc t'es content quand ça se termine?
Mais en même temps c'est assez fatigant, moi je trouve, enfin des fois je suis fatiguée d'avoir à me dire putain mais du coup juste par mon genre je vais devoir m'y donner deux fois plus et prouver ce que je vaux. En fait j'aimerais bien juste qu'on fasse comme si personne n'était genré en fait. Je suis juste une personne, si je suis là c'est que a priori j'ai des qualités pour être là et des compétences, et ces compétences je les prouve en bossant et en bossant le mieux que je peux.
Et puis sur ces trucs là moi je sais que ça m'arrive quand même malheureusement souvent de tomber sur par exemple des régisseurs qui font mal leur métier et qui le connaissent pas et qui sont à des positions où je me dis ouais mais attends là le gars il arrive quand même à se planquer dans cet endroit qui est genre un grand lieu parisien et il connaît même pas la console, quoi. Et je me dis, mais c'est grave, quoi. Mais parce que c'est des copains, de machin...
Ouais, c'est un côté vraiment très injuste, quoi.
Et ouais, et du coup, moi, j'arrive là derrière, et en fait, je connais la console, je sais faire le truc, mais limite, on va me mettre des bâtons dans les roues pour... Enfin, c'est très, très... Mm. Mais là, c'était vraiment lié à une expérience spécifique. Donc, ça, c'est pas du tout une généralité, mais... Enfin, en tout cas, la généralité, elle est sur quand même le fait que tu dois montrer à quel point tu sais faire ton métier tout le temps, alors que t'as envie de dire, mais mec, si je suis là, c'est pas pour rien, quoi. Enfin, évidemment, je sais de quoi je parle. Et...
On va faire une deuxième petite pause musicale. Tatiana, est-ce que t'as une envie, une idée, quelque chose à nous partager ?
J'avais pensé à Awa, le groupe de... Je crois qu'elles sont sœurs.
Ok.
Et qu'elles sont saoudiennes.
Très bien.
Voilà, et je vais vous épargner la lecture du titre.
Du titre.
Sinon, je vais le massacrer.
Très bien. On écoute ça. Message, une envie, un idéal, une utopie peut-être pour, pour l'avenir dans vos métiers respectifs.
De croire en soi et de se dire que si on a envie de quelque chose, on peut le faire et oui, parfois c'est difficile, mais j'ai plutôt envie de finir sur cette note optimiste, de se dire que postuler au culot sur des trucs qui vous ont toujours fait rêver, d'aller vers ce dont on a envie, quoi. Enfin, Et puis voilà, en espérant que ce soit moins compliqué pour les femmes de travailler dans la technique quand même.
Mmh. Ouais, bah moi comme je disais tout à l'heure, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus trop de différence entre les genres et qu'il s'agisse juste de personnes. Mais du coup, a priori, ce ne sera pas quand même tout de suite. Enfin, ça existe. Ouais. Mais non, bah peut-être de dire à toutes les filles qui bossent dans des métiers qui sont un peu compliqués à ce niveau-là, bah de pas hésiter à s'imposer, à ouvrir leur gueule quand il faut, quoi. Voilà.
Un beau message de sororité, finalement.
Exactement.
Tout à fait.
Merci mille fois, les meufs,
d'avoir
répondu à ces petites questions et de nous avoir fait partager vos vies et vos visions. Bon courage à vous pour la suite.
On prend.
Et puis on se recroisera sur la route. Merci.
Merci.
Merci Léa et merci Tatiana. Et quant à vous, vous pouvez nous écrire sur agenda@studiosf.fr pour nous parler de vos événements.
Et si vous avez envie de partager avec les auditeurs et auditrices l'envers du décor des métiers dits non essentiels, on vous accueillera avec plaisir à la radio. À bientôt.
À bientôt.